VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est midi à Libreville au Gabon, 11h en temps universel. Cinq jours après l'élimination du général Qassem Soleimani par les États-Unis, l'Iran a riposté mercredi en tirant des missiles contre deux bases abritant des soldats américains en Irak. Selon le Pentagone, une douzaine de missiles ont été lancés depuis l'Iran contre les bases d'Ayn al-Assad et d'Erbil. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a qualifié aujourd'hui de nouvel exemple d'escalade les frappes iraniennes sur des bases en Irak utilisées par des troupes de la coalition, y compris des Européens. Eh bien, quels sont les risques liés à l'escalade en Téhéran et Washington? Écoutons Dr. Richard Conley, il est professeur de sciences politiques à l'Université de Floride.
On ne sait pas en ce moment s'il y a des fatalités ou quelque chose d'autre, mais j'imagine que la Maison Blanche est en train de contempler comment répondre à cette attaque militaire de l'Iran. Et c'est complexe parce que c'est le terrain de l'Irak, pays souverain, et bien sûr maintenant avec les troupes américaines qui se retrouvent là-dedans. Donc il va falloir attendre la réponse de Trump, le président, et la Maison Blanche et les conseillers au président pour savoir comment ou si on va répondre à cette attaque.
Richard Conley, analyste politique de l'Université de Floride, ici même aux États-Unis. Le président américain Donald Trump, pour sa part, a indiqué qu'il ferait une déclaration aujourd'hui et laissait entendre que le bilan n'était pas très lourd. L'évaluation des dégâts et des victimes est en cours. Jusqu'ici, tout va bien, a-t-il lancé sur Twitter. Le président iranien Hassan Rouhani va également prononcer un discours à la nation, a annoncé aujourd'hui la télévision d'État iranienne. L'heure de cette allocution n'a pas été précisée. La riposte américaine survient après que le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a défendu hier la légalité de la frappe américaine qui a tué le général iranien Qassem Soleimani. Il défend aussi toute future action militaire des États-Unis contre l'Iran. Abdourahman Dia.
Le président Donald Trump avait absolument les bases légales appropriées pour donner l'ordre de tuer le haut responsable des gardiens de la révolution, a déclaré Mike Pompeo lors d'une conférence de presse à Washington. Mike Pompeo a davantage insisté sur les actions de Qassem Soleimani en Syrie, au Liban ou en Irak et sur la mort d'un sous-traitant américain en territoire irakien fin décembre. Si vous cherchez des choses imminentes, il suffit de regarder ce qui s'est passé dans les jours qui ont mené à la frappe contre Soleimani, a-t-il dit. Il a aussi accusé le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, de n'avoir pas dit la vérité sur le déplacement en Irak de Qassem Soleimani. Il a dit que Soleimani était à Bagdad en mission diplomatique. Qui peut croire ça, a lancé le secrétaire d'État américain. Interrogé sur la menace du président Trump de frapper des sites culturels iraniens en cas de riposte militaire de Téhéran, le chef de la diplomatie américaine a de nouveau assuré que Washington agirait conformément au droit international.
Un Boeing 737 appartenant à la compagnie Ukraine International Airlines, transportant au moins 170 passagers, s'est écrasé à cause de problèmes techniques peu après son décollage de l'aéroport international de Téhéran. L'ensemble des passagers et des membres d'équipage sont morts dans l'accident. L'appareil s'est incendié après s'être écrasé à proximité de l'aéroport de Téhéran. On ne connaissait pas pour l'heure les causes précises de l'accident survenu dans un contexte de tension accrue dans la région alors que l'Iran a mené dans la nuit de mardi à mercredi des frappes contre des bases irakiennes abritant des forces américaines. L'avion ukrainien qui s'est écrasé à Téhéran a passé son contrôle technique il y a seulement deux jours, selon la compagnie. Air France a suspendu tout survol des espaces aériens iraniens et irakiens. La compagnie allemande Lufthansa a également annoncé mercredi qu'elle suspendait jusqu'à nouvel ordre ses survols de l'Iran et de l'Irak.
Nos infos sur voaafrique.com.
Jean-Roger Billon, la suite du journal. Au moins 4 personnes ont été tuées et plus de 10 blessées aujourd'hui dans un attentat à Mogadiscio où une voiture piégée a explosé à proximité du Parlement, a annoncé la police somalienne. La voiture piégée se trouvait avec d'autres véhicules à la hauteur d'un barrage routier le long de la route Makahal-Mukarama, près de la zone Saïdka. Les islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda ont aussitôt revendiqué l'attentat. Ces rebelles islamistes ont réalisé le 28 décembre l'une des opérations les plus meurtrières de la décennie en Somalie, l'explosion d'un véhicule piégé dans la capitale ayant fait 81 morts. Dimanche, ils ont attaqué une base militaire américano-kenyane dans le sud-est du Kenya, près de la frontière somalienne, tuant 3 Américains. 6 combattants djihadistes ont été tués, 2 soldats burkinabés blessés au cours d'une opération qui a permis de démanteler une base djihadiste à Pisila, dans le nord du Burkina Faso. Le Burkina a déploré récemment 2 attaques djihadistes meurtrières, l'explosion d'un car provoqué par une mine artisanale samedi dans le nord-ouest qui a fait 14 morts dont 7 collégiens et la mort de 35 civils et 7 militaires dans une attaque djihadiste à Abinda dans le nord du Burkina à la veille des fêtes de Noël. Sous-équipées et mal entraînées, les forces de l'ordre burkinabé n'arrivent pas à enrayer la spirale de violence djihadiste. Elles ont toutefois revendiqué une série de succès depuis 2 mois, affirmant avoir tué une centaine de djihadistes au cours de plusieurs opérations. En Guinée, les principaux partis de l'opposition ont confirmé hier leur intention de boycotter les législatives prévues le 16 février. C'était au lendemain d'une nouvelle mobilisation contre la volonté prêtée au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat à Ekiabadou.
Amadou Salim Yves Kébé, président de la Commission électorale nationale indépendante, a déclaré hier que la CENI a enregistré le dépôt de listes émanant de 29 partis, dont le RPG au pouvoir. Ces partis vont se disputer 76 sur les 114 sièges de l'Assemblée nationale mis en jeu sur des listes nationales qui seront réparties à la proportionnelle. Les sièges restants seront désignés lors de scrutins majoritaires à un seul tour dans les 38 circonscriptions du pays. 14 partis ont inscrit des candidats pour ce scrutin majoritaire selon M. Kébé. Les conditions pour une élection transparente ne sont pas réunies d'après Seloud Alain Diallo, leader de l'opposition. Il confirme le boycott et réclame un fichier électoral assaini, un recensement correct des électeurs et un président de la commission électorale moins partisan. Ces élections, on les empêchera, a-t-il ajouté. Sidya Touré, autre leader de l'opposition, a tenu des propos similaires. L'opposition avait déjà annoncé le 23 décembre qu'elle boycotterait ce scrutin, plusieurs fois reporté, et même qu'elle empêcherait sa tenue.
L'épidémie de rougeole qui sévit en République démocratique du Congo est la pire au monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. En un an, elle a déjà tué plus de 6000 personnes. L'OMS demande 40 millions de dollars supplémentaires pour y faire face. Eddy Sango.
Les 40 millions de dollars supplémentaires sont nécessaires pour un plan de réponse des 6 mois, visant notamment à étendre la vaccination aux enfants âgés des 6 à 14 ans, indique la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Matshidiso Moeti. En 2019, plus de 18 millions d'enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés à travers le pays et environ 310 000 cas suspects de rougeole ont été recensés. Selon l'OMS, 25 cas de rougeole concernent les enfants de plus de 5 ans qui sont les plus vulnérables. Outre la rougeole, la RDC lutte contre une épidémie d'Ebola qui a déjà fait 2233 morts sur 3390 cas enregistrés d'après les derniers bilans officiels datés du dimanche. Les virus Ebola touchent les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, des régions en proie aux violences en raison de la présence des dizaines de groupes armés locaux et étrangers.
Un opposant gabonais, Landry Amiang Washington, condamné pour incitation à la révolte et outrage au chef de l'État, a annoncé aujourd'hui à l'AFP sa remise en liberté à Libreville au Gabon après plus de 3 ans de prison. Monsieur Washington, également de nationalité américaine, avait été arrêté dans la capitale gabonaise le 12 août 2016 à sa descente d'avion en provenance de Miami où il vivait, accusé d'avoir incité à la révolte et outragé le président Ali Bongo Ondimba, dont il critiquait quasi quotidiennement le régime sur les réseaux sociaux. Interpellé 2 semaines avant la présidentielle de 2016, qui avait consacré la réélection pour un 2e mandat de M. Bongo dans un scrutin très serré et vivement contesté par l'opposition, M. Washington n'avait été condamné à 3 ans de prison que le 5 avril dernier, après une longue détention préventive qui couvrait donc cette peine. Jean-Roger Billon à ce micro. Fin de ce journal. Retenez que le président américain s'exprimera sur les tensions avec l'Iran aujourd'hui, de même que le président iranien qui va prononcer un discours cet après-midi. Jean-Roger Billon, à ce micro, prochaines infos avec Henri Francisque dans 50 minutes. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Maven.